Place Info.
Toute l'actu des médias, c'est avec vous, Didier Siamour. Et on commence avec RT France, autrement dit Russia Today, qui envisage une action en justice.
Oui, Xenia Federova, la présidente de RT France, envisage d'engager une action en justice pour discrimination après le refus de l'Elysée d'accréditer sa chaîne, notamment lors du G7 fin août à Biarritz. C'est ce qu'elle a expliqué hier devant l'association des journalistes médias, laissant également entendre que des mesures réciproques pourraient affecter RFI et France 24 en Russie. La chaîne a été mise en demeure par le CSA pour manquement à l'honnêteté, à la rigueur de l'information, à la diversité des points de vue dans un sujet sur la Syrie, décision contre laquelle elle a déposé un recours au Conseil d'État. Par ailleurs, RT France envisage l'ouverture d'un bureau au Maghreb.
Place à l'invité média de France Info ce matin. Alors que les États-Unis annoncent la mort du chef du groupe État islamique, la chaîne France 5 diffuse ce soir un documentaire sur l'implication des Français dans l'organisation terroriste djihadiste français La Part du Monstre. C'est à 20h50. Son auteur, son réalisateur et votre invité Didier.
Bonjour Kamal Redouani.
Bonjour.
Alors après vous êtes intéressé au fonctionnement de cet État islamique, c'était il y a un peu plus d'un an. Vous vous penchez donc sur ces Français qui avaient rejoint les adversaires déclarés de l'Occident. Pourquoi ? Il y avait une opportunité pour vous à le faire ou est-ce que vous aviez envie d'aller plus loin, je dirais presque, dans ce voyage au bout de l'enfer ?
J'avais envie de savoir finalement les djihadistes qui ont passé la frontière syrienne, on ne sait rien d'eux au fait, qu'est-ce qu'ils ont fait sur le territoire syrien, quels crimes ils ont commis. On est aujourd'hui en train de se poser la question, est-ce qu'on doit les rapatrier ou pas, comment les juger, etc. Moi j'avais envie d'aller documenter finalement leurs crimes et qu'est-ce qu'ils ont commis sur le territoire syrien.
Alors en effet on s'interroge, on se pose beaucoup de questions, que faut-il faire de ces djihadistes? Vous en avez rencontré comme cette jeune femme à qui vous avez demandé si elle regrettait.
Je regrette, mais d'un autre côté, je regrette pas parce que ça m'a appris la vie. Ça m'a appris à me débrouiller, à être une maman.
Cette Française a vécu en Syrie pendant 4 ans.
Et vous trouvez pas que la vie de vos enfants, c'est un peu dur ?
Oui, mais ça les a formés, je pense.
Son mari, un djihadiste français, est mort au combat. Elle ne regrette rien. Pourtant, aujourd'hui, elle aimerait revenir en France.
Revenir sans regretter, est-ce que ça peut être envisageable ?
Ce témoignage, cette jeune femme, je l'ai eu à peine. Elle venait à peine de sortir en fait du dernier territoire de Daesh. Donc son discours était encore frais. Elle avait encore cette idéologie dans la tête. Et on l'entend dans son discours. Elle parle, elle dit que l'État islamique, enfin ses enfants ont appris beaucoup de choses, qu'elle a appris beaucoup de choses au sein de l'État islamique. Et c'est un discours qu'on n'entend plus quelques mois après ou quelques semaines après.
Mais vous rencontrez d'autres femmes qui n'ont pas forcément le même discours.
Tout à fait. Donc, je ne sais pas si ces femmes regrettent ou pas. Je ne sais pas exactement, mais ce qui est sûr et certain, c'est que elle, à ce moment bien précis, elle ne regrettait pas grand-chose. Ouais.
Alors, vous avez tourné sur place pendant pratiquement 12 mois. Comment s'est passé ce tournage ? Quelles conditions ? Vous avez suivi des combattants kurdes, syriens ?
J'ai suivi des combattants, mais j'étais surtout à la recherche de documents, de preuves, du parcours des djihadistes occidentaux. Je voulais savoir où ils vivaient, je voulais savoir où nos djihadistes, nos ennemis finalement, les Européens, les Français, qu'est-ce qu'ils ont fait, où est-ce qu'ils ont habité, quel était leur comportement en Syrie, dans leur quartier. Et j'ai essayé de suivre ce parcours-là. J'ai été aidé par une personne qui m'a donné des points GPS qui m'ont permis, qui m'ont guidé dans ce voyage. Et puis un Syrien qui, lui, recherchait finalement ceux qui ont décapité son neveu. Et ce sont des djihadistes occidentaux un djihadiste occidental qui a décapité son neveu. Donc ça a été un voyage vraiment très difficile. C'est un territoire de guerre. C'est très difficile d'aller dans les ruines et rechercher des preuves, des informations concernant des gens finalement qui changent de nom chaque semaine. Il s'appelle Abu Hamza un jour, Abu quelque chose un autre.
Qui revient d'ailleurs, c'est Abu Sofiane. Vous avez un autre témoignage, un prisonnier de 29 ans qui avait été enfermé pendant 9 mois dans le stade de Raqqa, un centre de détention où sévissait ce Français.
Tous les prisonniers avaient peur de lui, même celui qui venait à peine d'arriver et qui n'avait pas encore été torturé. Il avait peur juste en entendant le nom d'Abu Sofiane. Tout le monde avait entendu parler de lui. Il était toujours masqué et nerveux. Il avait une multitude de façons de nous torturer. Il choisissait la méthode par rapport au corps et au poids du détenu. Il n'avait aucune pitié, ni envers les plus âgés, ni envers les plus faibles.
Alors, ce que vous dites dans le documentaire, c'est que vous semblez presque regretter de ne pas avoir pu l'identifier, ce Abou Sofiane. En fait, qu'est-ce que vous voulez indiquer à travers ce documentaire? Est-ce que c'est la nécessité de trouver des preuves et de rendre la justice?
Tout à fait. Sans preuve, il n'y a pas de justice. C'est aussi simple que ça, c'est du bon sens. Et donc, avec ce témoignage, avec la découverte de ce nom, Abou Soufiane, qui dirigeait quand même la plus grande prison de l'État islamique en Syrie, c'est pas rien, qui était un tortionnaire, un barbare, et qui est français, donc, et dont on connaît rien. Donc, il fait partie de ces inconnus qui ont fait ce voyage en Syrie, qui peuvent revenir, au fait, aujourd'hui, et clamer leur innocence. Donc, c'était important de montrer qu'il y a des djihadistes français qui ont eu des rôles au sein de l'État islamique, mais pas simplement des petits combattants ou simplement des gens qui, par amour pour le peuple syrien, sont partis en Syrie pour aider les Syriens. Donc, c'était important pour moi.
Kamel Redouani, rapidement, sur le terrain, est-ce que vous avez senti que les Français sur place adhéraient un peu au mythe du chef Abou Bakr al-Baghdadi qui a été annoncé mort? Est-ce que vous pensez, vu ce que vous avez entendu sur le terrain, que ça peut changer quelque chose?
La mort d'al-Baghdadi, je ne pense pas parce que finalement, eux, c'est l'idéologie qui est ancrée dans leur tête, qui est la plus importante. Et puis, dans tout le cas, n'importe quel groupe, al-Baghdadi lui-même a remplacé quelqu'un qui est mort en Irak et qui était un émir avant lui. Et donc, demain, il y aura un autre chef. Ils vont tous le suivre parce que c'est l'idéologie qui est importante et c'est elle qui est ancrée, malheureusement, dans les têtes des djihadistes.
Merci beaucoup, Kamel Redouani. Merci d'avoir répondu à l'invitation de France Info pour ce documentaire diffusé ce soir donc sur France 5 dès 20h50, Djihadiste français, la part du monstre, avec un débat je crois ensuite auquel vous participez. Et merci beaucoup Didier Siamour, spécialiste média de France Info.
Merci.